Arnaud Campagne, bonjour. Pour ce dernier tour d'horizon des Vosges, nous signalons après les sentiers de la photo. En ouverture lundi, le sentier cette fois des passeurs dans le territoire des Abbayes près de Saint-Dié-des-Vosges. Dans un espace naturel protégé entre Vosges et Alsace, se déploie pour la 7e fois la Biennale du sentier des passeurs, soit un parcours de 36 expositions d'œuvres d'artistes contemporains. Ouvert depuis 3 jours, ça va durer jusqu'au 15 octobre et le sentier n'est pas qu'une balade surprise avec la découverte de pièces parfois insolites au détour d'un chemin, mais il combine aussi des rencontres avec les artistes, des ateliers sur leur conduite et des spectacles aux étapes de parcours et dans les communes concernées, sentier, trait d'union D, trait d'union passeur, .fr pour l'adresse. Dernière invitée vosgienne, Sarah Holtzmann, apicultrice à Mousset. D'abord amateur, Sarah est devenue professionnelle grâce à l'initiative de Un Toit pour les Abeilles qui consiste à parrainer des ruches. Nous demanderons évidemment à Sarah, vu l'actualité, des explications sur les causes des vagues de mortalité très préoccupantes des nombreuses colonies d'abeilles en ce moment. Enfin, dans le cadre du dossier, ils agissent en faveur de la cohésion sociale avec le magazine La Vie, ça apparaît dans le tout dernier numéro. Laurent Gibowski nous conduira dans les Côtes d'Armor vers l'association à vélo sans âge qui offre une sortie en triporteur aux personnes âgées des EHPAD locaux.
France Inter. Carnet de campagne. Philippe Bertrand.
Sarah Holtzmann, bonjour.
Bonjour, monsieur Bertrand.
Bonjour, madame Holtzmann. C'est monsieur Pierre. Pierre, c'est notre relais pour le réseau Un Toit pour les Abeilles qui nous a donné vos coordonnées. Vous êtes apicultrice à Mousset et vous bénéficiez donc de ce réseau de parrainage Un Toit pour les Abeilles. Vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi, enfin nous rappeler en tout cas, parce qu'on en a déjà parlé, en quoi consiste Un Toit pour les Abeilles?
Un Toit pour les Abeilles, c'est un réseau aujourd'hui national, d'une cinquantaine d'apiculteurs qui militent pour une apiculture artisanale, locale et respectueuse des abeilles. Je suis membre d'Un Toit pour les Abeilles depuis 8 ans et c'est un réseau qui m'a aidé à passer professionnel et à maintenir mon cheptel tout le long de ces 8 ou 9 années.
Et donc le grand public peut parrainer des ruches?
Oui, aussi bien les particuliers que les entreprises. Et là, à l'heure actuelle, j'ai 114 ruches parrainées. 70 ruches parrainées par des particuliers et une trentaine de ruches parrainées par des entreprises.
Et c'est ce qui vous a permis de passer du statut amateur au statut professionnel?
Oui. Lorsque j'ai rencontré Un Toit pour les Abeilles, j'avais une quarantaine de ruches. Aujourd'hui, j'en ai un peu plus de 200 en production. Et oui, c'est ce qui m'a permis de maintenir mon cheptel, parce que le gros problème aujourd'hui, c'est aussi maintenir... C'est subvenir aux pertes hivernales et puis maintenir un cheptel pour ne pas subir le déclin. Le déclin que l'abeille subit depuis toutes ces années.
Ouais. Alors, vous vous engagez surtout dans une production bio. Comment on peut la qualifier de bio, sachant parfois les environnements de nourriture des abeilles qui sont absolument incompatibles avec une production biologique?
Je ne suis pas en mode abeille, hein.
Oui.
On s'entend bien. Mais bio dans le sens nature, moi à l'heure actuelle je suis dans la vallée du Raboldo, alors dans les Vosges, dans une vallée où il n'y a pas de grande culture. On est préservé heureusement de tout pesticide, mais c'est pas pour autant que je n'ai pas de perte.
Oui. Alors sur les 280 ruches que vous possédez, oui. Une cinquantaine sont aujourd'hui hors d'usage parce que toutes les colonies ont été décimées.
Oui, mais en sortie d'hiver. Chez moi, ça a été un mois de janvier doux, un mois de février, mars très glacial. Et ça n'a pas permis aux abeilles de reconstituer les populations, parce que c'est à cette période-là qu'on se retrouve à ce que la population se refasse la santé pour repartir sur une nouvelle année.
Oui. Si on calcule, Sarah, aujourd'hui, sans vouloir exagérer, avec les grands espaces de culture, parfois de la grande monoculture, l'arrachage des haies, donc atteinte à la biodiversité, les pesticides, et vous, le changement climatique, on se dit on a les pires conditions pour la suite de l'apiculture.
Et il y en a encore à venir, malheureusement.
C'est-à-dire ?
En Italie, un petit coléoptère qui s'appelle Athena tumida, qui était aux États-Unis il y a une bonne quinzaine d'années, et il a été détecté il y a 2 ans en Italie, donc à nos portes. Hein. Et Athena tumida, c'est carrément la mort de l'apiculture. Là, c'est le jour où il arrive en France, on peut fermer la porte, c'est la fin.
Est-ce que vous semblez pas qu'aujourd'hui on vous entend, parce que vous n'êtes pas la seule, à déclarer la catastrophe qui touche les professionnels comme vous de l'apiculture? On commence à vous entendre, non?
Je pense qu'on m'entend grâce au réseau d'Un Toit pour les Abeilles. Mais dans le contexte actuel, je ne ressens pas cette répercussion, malgré qu'il y a quand même beaucoup, on en parle beaucoup, mais ça ne fait pas changer les lignes, hein, malheureusement, hein, ouais. pour nous. Hein.
Aujourd'hui, donc, en dehors de la production de miel, vous récoltez de la gelée royale, le propolis aussi pour les laboratoires pharmaceutiques. Donc, vous avez ouvert votre, je veux dire, votre marché, entre guillemets.
Oui, non, mais là, vous savez, aujourd'hui, moi ou d'autres apiculteurs, la vente des produits de la ruche, pour nous, c'est pas ça le souci. Le souci, c'est le maintien du cheptel et la mortalité du cheptel chaque saison, ou la fécondation des reines, et puis tous les prédateurs. Et en fait, on doit être de plus en plus technicien de l'abeille et de plus en plus vigilant pour maintenir l'abeille en vie. On utilise énormément d'énergie à ça. Ouais. Par contre, les Français ont répondu présent sur des produits de qualité et des produits faits par l'apiculteur.
Alors, pour éviter de consommer uniquement du miel importé, on trouve où le miel de Sarah Holtzman?
Ah ben, on le trouve à Mousset.
Oui, bon, on va venir tous à Mousset.
On le trouve via le parrainage de ruches, oui. Parce que 6 pots sont alloués à chaque parrain en particulier, où les entreprises peuvent aussi avoir leur 12 kilos de miel lorsqu'ils parrainent. Et on le trouve au salon de l'agriculture. Tiens, j'étais montée à Paris quand même cette année. Sinon, via Internet, leruchelreinedesvosges.fr.
Exactement. Et puis, untoitpourlesabeilles.fr. Et puis, aussi la page Facebook. Merci, Sarah.
Merci beaucoup, Monsieur Bertrand.
Bon courage, Madame Holtzman.
Merci.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
C'est tout nouveau, c'est bien original. Des hébergements insolites vont s'ouvrir au public à partir du mois prochain, non loin de Vittel, dans une nature protégée et dans des espaces gérés par des producteurs et agriculteurs locaux et bio pour la plupart. Des cabanes perchées, des géodes, des maisons de hobbits, il y en a pour tous les goûts, comme la restauration assurée par les producteurs eux-mêmes ou encore les animations autour des plantes du jardin des arts proposées par les animateurs de pays. La particularité de ce programme d'accueil, c'est qu'il est le résultat de chantiers participatif de construction des hébergements réalisés avec l'aide d'auto-entrepreneurs de la région, avec l'aide des habitants aussi, ou de woofers, vous savez, les personnes de passage hébergées contre un coup de main, et puis des étudiants en stage sur le site. Une partie du revenu des locations, d'ailleurs, sera reversée à ces constructeurs solidaires, et l'alimentation en énergie sera de sources éoliennes et solaires. L'association à l'origine du projet prépare sa mutation en SIC, en Société Coopérative d'Intérêt Collectif, mais elle gardera le nom de Vittel la nature, avec au passage un beau jeu de mots. Vittel, donc, à chaque fois, évidemment, vivre telle la nature. Et ça donne sur le site internet Vittel, comme la ville, Vittel ta nature, Vittel ta nature, du coup je m'embrouille, .com. A priori, comme l'écrit Mathieu, membre du collectif, le projet séduit à distance beaucoup de personnes, y compris en Suisse et en Belgique, et l'ensemble du projet est soutenu donc par la ville de Vittel afin de redynamiser un lieu magique dans la forêt entre Contrexéville et Vittel, justement. Laurent Gibowski, bonjour.
Bonjour.
Laurent, nous ouvrons ce vendredi un deuxième volet du dossier élaboré avec le magazine La Vie autour de la cohésion sociale sous toutes les formes. Et on a un exemple aujourd'hui qu'on avait présenté il y a quelque temps dans les carnets de campagne, sous une autre forme et dans un autre lieu, s'appelle « À vélo sans âge » avec Philippe Bouillet.
Oui, « À vélo sans âge », c'est une initiative, on va dire, intergénérationnelle, parce que l'un des enjeux de la cohésion sociale aujourd'hui, c'est la rencontre des générations, et notamment la lutte contre l'isolement et la solitude. Et Philippe Bouillet, qui est un jeune retraité, s'est engagé à corps perdu, ça fait 2 ans, je crois, au sein de cette association qui est née au Danemark. Vous savez qu'au Danemark, il y a les triporteurs, les fameux triporteurs, c'est une culture là-bas. Alors, en France, ça a un petit peu plus de mal à prendre, mais il y a une quinzaine d'antennes locales en France. Et donc là, c'est en Bretagne, du côté de Trégastel et Lannion. Et donc, le principe, c'est d'emmener 2 personnes âgées qui se mettent devant dans le triporteur, et puis quelqu'un qui pédale derrière. Mais au-delà de l'exercice physique et du temps à se balader et à faire un peu de tourisme, c'est surtout l'occasion de très belles rencontres, à la fois sur le vélo et puis par rapport aux passants, aux touristes, aux gens de passage. Et c'est finalement une manière très concrète et très simple de contribuer à la cohésion sociale.
Alors on va prendre le guidon tout de suite, un coup de pédale. Merci Laurent pour appeler Philippe Bouillet. Philippe, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
On a déjà parlé dans les carnets de campagne d'un concept proche de celui que vous présentez chez vous avec le Lions Club Trégor Côte de Granit Rose à Lannion, parce que c'est lui qui vous a permis, entre autres, d'acquérir un des vélos. Ce sont des triporteurs.
Oui, ce sont des triporteurs qui viennent du Danemark.
Oui. Comment vous avez eu vent de cette invention ?
Alors c'est une amie qui m'a montré un article de journal où on voyait cette photo de deux personnes âgées devant sur le triporteur et qui avait l'air d'être vraiment ravie, et j'ai eu un coup de foudre.
Et dans le monde, ça commence à prendre ce principe. On dit qu'il en existe 1000 et 6000 bénévoles dans 35 pays pour animer ce réseau de triportage.
Et en France maintenant, le mouvement est arrivé depuis 3 ans. Et nous avons 25 triporteurs.
Le principe, c'est qu'un triporteur donc est installé dans un EHPAD, les fameux EHPAD dont on parle beaucoup en ce moment, pour améliorer la vie des personnes âgées, et en particulier de pouvoir circuler à l'air libre, avec un bénévole, et de découvrir, de redécouvrir la vie extérieure et d'avoir des relations intergénérationnelles.
Ah, c'est ça, oui. Et d'ailleurs, le slogan au Danemark, c'est pour que les personnes sentent à nouveau le vent dans les cheveux. Donc ça leur fait énormément de bien de sortir dehors.
Pourquoi le phénomène tarde à se développer en France ? Il est né en 2015. Vous avez dit 25 triporteurs, c'est encore très peu.
Alors pourquoi ? C'est toujours difficile. D'après mon amie danoise qui a amené le mouvement en France, elle trouve qu'en France, on est parfois un petit peu compliqué, on est un petit peu à cheval sur l'administratif, et je pense que ça freine un petit peu, mais j'ai pas de soucis sur le fait que ça va prendre de l'ampleur, oui.
Le coût d'achat est élevé ?
Oui, c'est à peu près 6000 euros.
Quand même ?
Oui.
Donc vous avez celui de Lannion, je l'ai dit, avec le Lions Club, celui de Trégastel, acheté par les commerçants de la commune, et la commune.
Tout à fait, oui, il y a eu un vrai élan d'enthousiasme et de générosité pour financer ce triporteur. Oui.
Il se conduit facilement ?
Oui, ça nécessite quand même d'être formé, parce que dans les virages, il y a une roue qui peut se relever un petit peu si on conduit trop vite. Donc voilà, ça nécessite une formation quand même.
Mais quels sont les bienfaits de ces sorties en triporteur ?
On a affaire à des personnes qui, des fois, nous disent qu'elles ne sont pas sorties en ville depuis plusieurs années ou qui découvrent la côte, la mer. Et moi, je trouve qu'elles redeviennent parfois comme des petits-enfants face aux odeurs, aux couleurs, aux bruits qu'elles entendent à nouveau.
Évidemment, le principe des balades est gratuit.
Ah oui, tout à fait.
Le projet, c'est pour vous de continuer à irriguer votre région et la Bretagne de ce principe de triporteur.
Ah bah oui, hein, je crois qu'il y a 36 000 communes en France, donc il nous faut 36 000 triporteurs.
Non, ça s'appelle à vélo sans âge. Le site, c'est avélosansage.fr. Et alors, vous êtes cofondateur de Vivre dans ma ville. Vous pouvez nous dire deux mots de Vivre dans ma ville, Philippe ?
Ah oui, volontiers. Vivre dans ma ville, c'est une banque du temps. Donc une banque du temps, c'est un réseau de personnes qui échangent des services et qui utilisent le temps comme monnaie. Donc notre monnaie s'appelle le celt, et un celt vaut une heure, quelle que soit la personne et le service.
Ouais. Et le site, c'est vivredansmaville.com et à vélo sans âge rappel.fr. Merci Philippe Bouillet.
Merci beaucoup.
Ainsi s'achève notre semaine dans les Vosges. La semaine prochaine, nous serons dans le département de la Moselle. Merci à Anne Hureau qui réalisait les carnets cette semaine. Merci à Joël Levert qui leur apportait du contenu. Merci aux techniciens et siennes de France Inter qui leur donnaient du volume, comme Paul Percheron. Aujourd'hui, le jeu des 1000 euros à Raon-l'Étape, la dernière des Vosges. Nicolas Stoufflet, assisté de Yann Pailleret.